vitriol calciné, pierre infernale, régulus antimony, mercure vif argent.
Il y a ici de quoi empoisonner Paris en quelques heures.
Bonjour, bienvenue dans le fil de l'histoire. L'affaire des poisons a-t-elle révélé tous ses mystères? C'est la question à laquelle nous tentons de répondre cette semaine avec l'historienne Agnès Walk. Aujourd'hui, cinquième et dernier épisode, l'épilogue. Après les révélations terribles faites par la fille de la voisin et par l'abbé Guibourg, laissant entendre que la marquise de Montespan aurait pratiqué des messes noires et aurait voulu empoisonner la maîtresse du roi, voire le roi lui-même, de nouveaux interrogatoires menés par la chambre ardente vont aboutir aux mêmes conclusions. Interrogées par l'araignée, deux devineresses parisiennes, Françoise Filastre et Madeleine Chaplin, ainsi que Philippe Gallet, un paysan normand ayant le secret des poudres d'amour, mais aussi des poisons capables de tuer, confirment avoir livré les aphrodisiaques à la Montespan, sans doute lassés de n'obtenir aucun succès avec ceux de la voisin. Encore une fois, le nom de la Montespan est cité, pour le plus grand embarras de l'araignée, car en toute logique, maintenant s'impose à la chambre ardente la nécessité d'interroger la favorite du roi.
On accuse votre madame de Montespan d'avoir donné à mademoiselle de Fontanges des gants empoisonnés qui l'ont tuée. Et elle n'aurait pas été mécontente à ce qu'il paraît de m'expédier aussi.
Cela ne se peut. Je connais trop bien madame de Montespan, et depuis trop longtemps, pour la croire capable de tels crimes.
France Inter. Le fil de l'histoire. Stéphanie Duncan.
Le 30 septembre 1680, la Filastre, reconnue coupable d'avortement, d'infanticide, de satanisme et d'empoisonnement, est condamnée à mort et brûlée vive. Le jour même de l'exécution, Louis XIV, qui a été informé d'une seconde preuve de l'implication de Madame de Montespan, ordonne à la Chambre ardente de faire cesser sur le champ toutes les séances et d'arrêter les procès en cours. La chambre ardente est donc brutalement suspendue. Même dans le cadre d'une monarchie absolue, cet ordre, allant à l'encontre de la tradition judiciaire, est totalement inédit. Déjà, dès que des bruits avaient circulé sur la Montespan, le roi avait ordonné aux magistrats chargés de l'affaire de ne pas transcrire leurs interrogatoires dans des registres, mais sur des feuilles volantes. Des feuilles volantes que Louis XIV va récupérer et enfermer dans une cassette scellée et gardée par lui. Quelques mois plus tard, le contrôleur général des finances, Colbert, rédige un mémoire qui démontre l'innocence de la Montespan. Donc, le vœu que le roi avait exprimé au début de l'affaire des poisons n'a pas été exactement exaucé. La justice, avait-il dit, devait être rendue sans aucune distinction de personne, de condition ni de sexe. Si la Montespan échappe à la justice, elle est punie par le roi.
Le roi désire que vous vous retiriez immédiatement dans cette communauté de Saint-Joseph que votre piété a fondée l'année dernière.
Le roi ? Je m'en assurerai moi-même.
Il désire également que vous ne paraissiez plus devant lui.
Soit. Je quitterai la cour. Bientôt.
Demain au petit jour, madame. C'est tout ce que j'ai pu obtenir pour vous.
Agnès Walk, vous avez travaillé donc sur les archives de l'affaire des poisons. Ces archives, est-ce qu'elles ont toutes été caviardées sur ordre du roi alors ?
Il y a beaucoup de trous, mais l'araignée a fait des doubles d'à peu près tout. Malheureusement, elles ont été conservées à la Bastille et la Révolution est arrivée. Un certain 14 juillet qui a tout fait envoler au vent. Alors, il y a eu des personnes intéressantes qui ont ramassé les choses et ça a donné le fond de la Bastille, qui est la principale source pour cette affaire des poisons. Donc, on a beaucoup, beaucoup de choses. Hein. Vraiment, on a beaucoup de choses.
Mais est-ce qu'il a récupéré des papiers qui étaient importants et qui auraient pu charger la Montespan ?
Oui.
Enfin, vous pensez qu'elle est innocente ?
Moi, je pense qu'elle est innocente, mais de toute façon, il pouvait y avoir des interrogatoires qui chargeaient la Montespan, puisque assez rapidement, on s'est aperçu que les gens, ou exactement les femmes d'ailleurs, hein, qui chargeaient la Montespan, n'étaient pas exécutées. Donc, ça s'est dit, et c'était un moyen de rester en vie. Certaines accusées ont passé comme ça le reste de leur vie, qu'elles ont eu très longue, dans des forteresses.
Oui, c'est pas très drôle quand même.
Pas très drôle.
Enfermé dans des forteresses. Est-ce que le roi a puni la Montespan, comme on l'entend l'extrait du film ?
Non, pas du tout, absolument pas.
Elle n'a pas été envoyée au couvent.
Non.
Quel est le bilan humain de cette affaire finalement ? Donc, beaucoup de personnes interrogées.
Alors,
il y a eu quand même pas mal d'exécutions.
Oh, 36. C'est 10%. quasiment des personnes qui ont été incarcérées.
C'est essentiellement les empoisonneurs et les empoisonneuses.
Exactement, c'est essentiellement les empoisonneurs et les empoisonneuses.
C'est-à-dire que les clients, les clientes n'ont pas été jugés. Est-ce que c'est une justice de classe ?
Alors, c'est une justice de classe parce qu'effectivement, les personnes qui ont été exécutées à part
et si on la veut Brinvilliers.
La Brinvilliers, si on peut, on pense, je pense que c'est le premier acte de l'affaire des poisons parce que son amant était vraiment celui qui dirigeait tout le milieu des drogues à Paris. Effectivement, c'est plutôt des gens qui vendaient des drogues pour vivre, donc des petites gens.
Mais vous voulez dire que toutes les personnes de la noblesse qui ont été impliquées à un moment ou à un autre, elles étaient toutes innocentes?
Peut-être, ou peut-être qu'elles n'étaient pas toutes innocentes, mais c'était très difficile.
Ils ont été innocentées.
Oui, parce qu'il n'y avait pas de preuves. En réalité, oui. Les preuves tiennent uniquement
aux
déclarations
des devineresses.
Voilà. Donc, puis après tout, acheter un filtre d'amour, c'est peut-être pas condamnable.
C'est pas très grave. Voilà. Qu'est-ce que cette affaire des poisons, Agnès Valk, nous dit de la société du XVIIe siècle en France ?
Alors, elle nous dit qu'il y a beaucoup de gens qui sont très, très crédules.
Et superstitieux.
Très superstitieux, qui croient au diable et qui pensent que le diable va apparaître.
La religion. Catholique parle du diable.
Elle parle du diable, mais là, c'est une autre dimension. C'est vraiment faire acte d'allégeance au diable et y croire. Et ce que ça nous dit aussi, c'est que le pouvoir royal et puis un certain nombre de personnes sont déjà dans une autre dimension qui est celle où l'on pense que finalement, on croit toujours peut-être au diable, mais le lien entre les hommes et le diable, ça devient de plus en plus lâche et on pense que tout ça relève vraiment de la superstition. Et d'ailleurs, le roi prend un décret à l'issue de cette affaire, une ordonnance qui bannit tous les soi-disant sorciers du royaume de France. Alors, bien évidemment, ça n'a pas vraiment de conséquences, mais c'est extrêmement important.
Parce que la fabrication de tout ce qui est pharmacie devient quelque chose de réglementé.
Et contrôlé. Donc, toutes les drogueries doivent avoir désormais des registres où elles indiquent ce qu'elles fabriquent, à qui elles vendent les produits, et finalement, pour essayer de tracer la circulation de ces produits. Donc, y a une avancée, d'une certaine manière, d'un point de vue, je dirais, de la rationalisation de la pensée, et puis également du commerce des substances dangereuses, qu'elles soient mortelles ou, enfin, en tout cas, des drogues qui deviennent des substances qui sont inscrites sur un livre. Sur des livres et des registres.
Parmi les conséquences de l'affaire des poisons, on a souvent dit que Louis XIV, qui jusqu'alors menait une vie sexuelle assez débridée et variée, aurait décidé de s'assagir, de se rapprocher de Dieu, sous l'influence notamment de Madame de Maintenon. Est-ce que l'affaire des poisons peut-être lui a fait un peu peur, non ? Toutes ces femmes voulaient son amour.
Oui, peut-être. Enfin, voilà, peut-être. En tout cas, ce qu'il déclare quand qu'il a 50 ans, c'est que, maintenant il est vieux, il a perdu ses dents, il a perdu ses cheveux, enfin voilà, il sent quand même qu'il y a un certain ridicule qu'il ne doit pas outrepasser.
Et puis il y a la religion quand même, la peur du péché.
Oui, il y a la peur du péché, oui, très nettement, mais là il y a l'aspect aussi d'un roi qui veut rester majestueux jusqu'au bout et qui pense que, quand on commence à être complètement décrépit, courir après des petites jeunettes, c'est pas très bien. Et d'autant que, il faut quand même aussi le dire, il est resté quand même une dizaine d'années avec Madame de Montespan. Il a eu quelques aventures un peu à droite et à gauche, mais il est quand même resté avec Madame de Montespan, qui est une femme qui a le même âge que lui. Il court pas après des petites jeunettes. Il a peut-être une vie sexuelle plus libre et plus libérée que ses sujets, mais il faut pas en faire un Don Juan néanmoins.
Merci Agnès Valk, je conseille vivement la lecture de votre livre « La marquise de Brinvilliers au cœur de l'affaire des poisons » qui est sorti en poche aux éditions Perrin, à lire également de Jean-Christian Petit-Fils « L'affaire des poisons » édité chez Perrin. Voilà, c'est la fin pour aujourd'hui du Fil de l'Histoire. L'émission a été réalisée par Claire Destacan, assistée d'Anne-Cécile Perrin et Fanny Petit, à la technique Jérôme Ragano. Vous pouvez vous abonner au podcast du Fil de l'Histoire sur l'appli Radio France. J'attends vos commentaires sur la page de l'émission ainsi que sur Facebook.